l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à foi 100.2.
Toujours un plaisir de se retrouver entre 12h et 13h pour ce Présence Midi, début de semaine. J'espère que vous allez bien là où vous êtes, tranquille, peut-être déjà devant votre assiette. Mais bon appétit si vous êtes à table, et bien sûr, la plus grande prudence si vous êtes en voiture. Au sommaire de ce magazine, d'un instant, David Torchala sera en compagnie du recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, le père Michel Dauban. Première parole du pape Léon XIV furent « Que la paix soit avec vous ». Une parole qui résonne ici à Lourdes, entre autres avec la prière pour la paix. Lourdes continue dans cette espérance en croyant que la paix est toujours possible. Vous l'aurez compris, la paix sera le sujet principal de l'échange avec le recteur. Et puis Philippe Irigoyen viendra nous parler du week-end de dédicace qu'il organise samedi et dimanche prochain à la salle Saint-Pierre à Lourdes. Il dédicacera d'ailleurs son dernier ouvrage qui s'intitule « Après les Romains, un Basque ou un catholique chez les musulmans ». Et puis on terminera par de passage à Lourdes, comme chaque lundi. Mathias Terrier aujourd'hui sera avec un invité exceptionnel, c'est le docteur Gianada, mon ami, qui devient le nouveau docteur du bureau des constatations médicales. Restez avec nous si vous voulez tout savoir sur le nouveau docteur, donc qui remplace le docteur Di Francesi à Lourdes pour les constatations. Vous saurez tout d'ailleurs comment ça se passe si vous restez à notre compagnie. Allez, on retrouve tout de suite le recteur.
Radio Présence à Ax-les-Thermes, 92.7.
Lorsque le pape Léon XIV s'est présenté aux yeux du monde, il y a un an, au balcon de la basilique Saint-Pierre, il a saisi le monde entier en ouvrant son pontificat et en disant « La paix soit avec vous ». Des mots simples, des mots forts, ce sont les mots du Christ ressuscité lui-même. Une parole qui résonne profondément ici à Lourdes où depuis les apparitions, via la prière pour la paix n'a jamais cessé. Terre de consolation, lieu de réconciliation, Lourdes continue aujourd'hui d'accueillir les pèlerins du monde entier avec cette même espérance, croire que la paix est possible et qu'elle commence certainement dans le cœur de chacun. Lourdes et la paix, voilà le thème que nous abordons aujourd'hui avec vous, père Michel Dauban. Bonjour.
Bonjour David.
Vous êtes le recteur du sanctuaire et je crois ne pas me tromper en disant que depuis que vous êtes recteur ici au sanctuaire, vous n'avez pas cessé de dire que Lourdes est fondamentalement un lieu de paix. Pourquoi ?
J'insiste beaucoup sur cette dimension qui me semble à ce point fondamentale pour le monde d'une manière générale avec l'actualité que nous connaissons, mais aussi pour chacune et chacun d'entre nous, et en particulier pour les pèlerins qui viennent. Tous les pèlerins qui viennent ont des requêtes diverses et variées, y compris physiques, avec les malades et les personnes en situation de handicap. Tous ne sont pas guéris physiquement, mais je crois pouvoir dire que tous repartent avec une réelle paix, une profonde paix dans le cœur. Et ça, c'est le premier élément qui me semble absolument fondamental. C'est mieux vivre ce que l'on est amené à vivre dans les conditions présentes qui ne sont pas toujours spécialement faciles. Et puis ensuite, le deuxième volet, c'est bien évidemment œuvrer pour la paix, c'est prier pour la paix. Un certain nombre de manifestations, de pèlerinages dans le sanctuaire en attestent. Dans quelques jours, il va y avoir le pèlerinage militaire international, le pèlerinage pour les anciens combattants. On vient pour évoquer la paix, pour se rassembler, pour vivre une fraternité qui transcende, y compris les différentes armées, les différents combats à travers le monde. Nous allons fêter aussi dans quelques jours le 80e anniversaire du pèlerinage du retour en 1946. Pax Christi, ce mouvement qui a été fondé après la Deuxième Guerre mondiale, a une présence physique particulière ici dans le sanctuaire. Bref, on essaye vraiment de décliner, ça me semble fondamental, cette cause de la paix. La Vierge n'a jamais voulu la guerre, c'est évident.
Mais est-ce que lorsque on entend évidemment ces phrases du Christ à la messe, que la paix soit avec vous, est-ce que la paix du Christ est la même que la paix des hommes?
Non. La paix du Christ est plus profonde que la paix des hommes. Nous avons entendu dans l'Évangile récemment, je vous laisse ma paix et ce n'est pas la paix à la manière du monde. On l'entend dans chaque Eucharistie également. La paix du Christ ressuscité, comme vous venez de l'évoquer, elle est profonde. Le pape Léon XIV, le jour de son élection, vous venez de l'évoquer, a spécifié cette formule qui est restée dans les esprits, en tout cas dans le mien, la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et désarmante, une paix qui va bien au-delà de l'emploi des armes et qui vient toucher le fond des cœurs. Le Christ veut toucher le fond des cœurs, encore faut-il qu'il se laisse ouvrir, ce qui n'est pas forcément toujours très très facile, mais il y a des paix qui sont factices, il y a des paix qui peuvent être formelles, qui peuvent être plus ou moins hypocrites, je ne vais pas faire de référence à l'actualité internationale, il y a des conflits qui se concluent par une fausse paix, un traité de paix, on en a dans l'histoire, hein, et de fait, quelques années plus tard, un conflit éclate à nouveau. Bref, la paix que le Christ ressuscité est beaucoup plus profonde que cette paix des hommes, qui est déjà une première étape, mais qui, bien souvent, de fait, hélas, on le constate, n'est pas suffisante.
Vous l'avez dit, quand on est pèlerin, qu'on vient à la grotte, on vient chercher la paix intérieure. Est-ce que on vient aussi prier pour la paix dans le monde, à l'heure vraiment des conflits au Proche-Orient, en Ukraine? Comment ça se formalise?
Alors de fait, récemment, nous avons vécu le pèlerinage avec l'Ordre de Malte et avec les différents temps de prière à la grotte, il y a eu un chapelet en arabe où la délégation du Liban était particulièrement présente. Il se trouve que le samedi, il y a également un chapelet animé par nos frères catholiques ukrainiens. Donc, de fait, voilà, dès que une initiative de ce genre-là se manifeste, je crois qu'il est de notre devoir de l'honorer, de faire en sorte qu'elle puisse se concrétiser. Et puis, n'oublions pas aussi que tous les soirs, à la fin de la procession mariale au flambeau, il y a d'une part ces intentions de prière récoltées dans la journée qui sont présentées par l'évêque qui préside à la Vierge Marie, et puis cette prière à Marie, reine de la paix, tous les soirs. Je crois que dans ce silence qui marque la fin de la procession mariale, avec ses flambeaux allumés, il y a un instant qui a une densité que j'ose qualifier de rare à ce moment-là. Et de fait, oui, nous prions pour la paix et Marie entend cette cause et aide chacun à la vivre et à être toujours plus artisan de justice et de paix.
Vous souhaitez que le sanctuaire continue évidemment cet élan de prière et également s'inscrire dans les pas des fondateurs aussi du sanctuaire. Vous avez évoqué les 80 ans du pèlerinage du retour 1946, à peine un an après la fin de la guerre. Que s'est-il passé à ce moment-là, si on fait une petite lecture historique, et que va-t-il se passer pour célébrer ces 80 ans?
Alors 1946, c'est ce premier pèlerinage jeudi du retour avec tous les soldats, enfin tous ceux qui ont œuvré pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui sont rentrés évidemment vivants. Il y a ceux qui sont décédés, et de fait ces personnes sont venues. On parle de 100 000 pèlerins début septembre 46 pour honorer cette cause de la paix et se rassembler pour avancer ensemble dans une fraternité nouvelle. Et il se trouve qu'effectivement cette année, donc nous allons célébrer le 80e anniversaire, il y a dans l'enceinte du sanctuaire, non loin, sur le mur d'enceinte, une magnifique exposition avec des photos qui retracent cet événement. Et régulièrement, par dizaines, alors pas tous les 10 ans, mais cet anniversaire a été fêté. Et cette année, nous souhaitons le célébrer particulièrement. Il y a encore une réunion qui est prévue dans mon agenda dans quelques jours sur ce sujet. Et ça me semble vraiment très, très important. Donc c'est Monseigneur Rodin qui est à l'initiative du Secours catholique, qui a œuvré, qui a tout fait pour que ce pèlerinage se réalise. Il y a cette croix de ce pèlerinage de 46 qui est à la cité Saint-Pierre. Il y a le caveau de Monseigneur Rodin, devant lequel les pèlerins, cette année, seront invités à aller se recueillir. Oui, il y a une cause que l'on veut vraiment honorer, entre autres événements, par rapport à cette date fondatrice de 46.
Monseigneur Rodin, c'est le fondateur du Secours catholique. La cité Saint-Pierre, vous l'avez évoqué, est toute proche du sanctuaire. Quel est le lien avec le sanctuaire au quotidien et la cité Saint-Pierre ?
Le lien, il est important avec les pèlerins qui vont loger, qui sont parfois bénévoles, parce que là aussi, la cité Saint-Pierre fonctionne largement avec du bénévolat. Et donc, ces personnes viennent dans le sanctuaire et vivent, ont une vie communautaire, une vie fraternelle sur les hauteurs du sanctuaire, dans un lieu magnifique, mais sont pleinement engagés aussi pour se rendre auprès de la Vierge Marie à la grotte de Massabielle pour la prier. Et ce sont des beaux liens qui se vivent entre les uns et les autres, parce que c'est aussi la charité, c'est aussi la fraternité qui concrètement se vit là-haut comme elle se vit en bas. Je pense qu'il faut dire aussi, dans ce contexte immédiat de l'après-guerre, vous avez évoqué Monseigneur Rodin, je pense qu'il faut aussi évoquer Monseigneur Théas. Monseigneur Théas qui a été évêque de Montauban avant de devenir évêque de Tarbes-Lourdes de 47, donc aussitôt après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 70. Il a été à l'initiative du mouvement Pax Christi, dont d'ailleurs il a été le président jusqu'à 1965. Et ce mouvement Pax Christi, qui est un mouvement œcuménique pour la paix, a un local, a une permanente, participe à la pastorale du sanctuaire dans l'espace Sainte-Bernadette. Et de fait, a mis en place cette année une marche aux sources de la paix. Donc là aussi, à travers quelques étapes essentielles dans le sanctuaire, il s'agit de permettre à tous ceux qui veulent œuvrer, penser, prier, réfléchir à la paix, de se retrouver, de resserrer les liens et de continuer à avancer. Monseigneur Théas avait créé une messe hebdomadaire pour la paix. Donc je crois que nous inscrivons dans la continuité, j'allais dire, de ces pères fondateurs ici même dans le sanctuaire.
Vous avez un souhait, c'est de mettre mieux à l'honneur cette fête du 11 novembre, cet armistice chaque année à Lourdes. Vous aviez déjà invité des responsables de l'église ukrainienne. Pourquoi cette date du 11 novembre serait une date de prière spéciale pour la paix, encore une fois?
Nous le savons tous, le 11 novembre est la date de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et de fait, outre le fait, pour le recteur que je suis, de me rendre au monument aux morts à l'invitation de monsieur le maire de la ville de Lourdes, ce qui est fondamental, il me semble important aussi de pouvoir concrétiser, marquer cette journée qui, dans certains esprits, du reste, disparaît. Peut-être que certains, aujourd'hui, vivent une journée fériée, sans trop savoir d'ailleurs pourquoi pourquoi elle est fériée. On pourrait le dire peut-être aussi du 8 mai, je ne sais pas. Mais en tout cas, il me semble essentiel, oui, de pouvoir avoir avec tel ou tel invité, œuvrer pour telle ou telle cause, en tout cas, marquer cette journée comme étant particulièrement un temps de prière, de réflexion pour la paix.
Pour terminer, le pape Léon XIV rappelle que la prière est la grande force de réconciliation des peuples. Lourdes aussi est une terre de réconciliation. Ma dernière question, est-ce que vous pensez que prier véritablement change le monde ?
Je pense que prier change les cœurs. Et de fait, si les cœurs ne se mobilisent pas pour changer le monde, je ne vois pas très bien comment cela va-t-il se faire. Oui, je pense que la prière est absolument fondamentale, et une fois de plus, elle marque nos journées, et de fait, lorsque chacun repart de Lourdes, qu'il soit de Tarbes ou qu'il soit d'un pays éloigné, il est invité à être artisan de justice, de charité, de paix, là où il est, dans la mesure où il a déjà été concrètement dans le sanctuaire de Lourdes.
Merci Père Michel Dauban.
Je vous en prie, avec plaisir.
À une prochaine fois, merci.
Présence à Salis du Salat, 94.1.
C'est un habitué de Radio Présence que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour Philippe Rigoyenne.
Oui, bonjour Philippe.
Nous allons parler d'un livre et particulièrement d'une série de dédicaces que vous allez faire, un week-end de dédicaces de votre dernier livre, qui a un nom un peu... Alors, vous étiez venu le présenter, on va le résumer en quelques mots. Vous allez nous le résumer en quelques mots dans quelques instants. Après les Romains, un Basque ou un catholique chez les musulmans. C'est un livre, le titre est accrocheur.
Oui, je ne sais pas s'il est accrocheur ou s'il repousse, je ne sais pas ça. Je n'ai pas eu encore de...
Et donc, vous allez nous en parler. Alors, on va déjà noter les dates pour les gens qui nous écoutent. Eh bien, écoutez, c'est du samedi 13 au dimanche 14 juin, donc tout un week-end, de 9h à midi, de 15h à 17h. Donc, cette séance de dédicace où on pourra bien sûr se procurer votre livre. C'est au centre Saint-Pierre, 14 rue de Barthéirès à Lourdes. C'est pas très loin de l'école Père-Amal Saint-Joseph et de l'église paroissiale.
Oui, voilà.
Voilà. Pour faire simple, la rue Barthéirès, la salle Saint-Pierre, donc, qui vous a prêté, donc, les locaux pour faire ce week-end de dédicace. Après les Romains, un Basque ou un catholique chez les musulmans, en deux mots, c'est l'histoire improbable d'une amitié qui est née grâce à Facebook.
D'abord, je vais, avant de raconter le résumé du livre, je veux quand même ici remercier le Père Jamais,
oui,
curé de Lourdes, donc, qui a eu la grande gentillesse de me prêter la salle le centre Saint-Pierre, donc, comme vous avez dit, qui est à 14 rue Barthéirès, plein centre de Lourdes. Voilà, donc j'en profite pour le remercier. Donc, le résumé du livre, oui, donc je
en
suis...
En deux mots.
Ça va être difficile.
Oui, il fait 400 pages ou 300 pages.
Oui, donc par les réseaux sociaux, vous voyez, des fois, on peut lier d'amitié par les réseaux sociaux. Donc voilà, on est rentré en contact il y a 7 ou 8 ans, donc pour ne pas nommer, par Facebook, disons. Et donc, tout à fait par hasard, il m'a demandé à être ami parce que c'est quelqu'un qui adore, sans être allé au Pays Basque, mais qui adore le Pays Basque, la culture du Pays Basque, et les couleurs, bien sûr, aussi des Pays Basques. Donc, nous avons commencé à correspondre par Facebook, après un message privé, et vite en visio, disons. Donc, il s'est présenté d'entrée, il m'a dit, voilà, je suis algérien, musulman pratiquant. Moi, je lui ai rétorqué, je suis basque et je suis catholique pratiquant. Donc, voilà, les cartes sur table, sur la table. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé à échanger et une amitié sincère et profonde est née entre nous parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de très ouvert, très intelligent. Et avec qui on peut parler de tout, sans tabou. Et il m'a invité deux fois en 2022-2023. J'ai fait un séjour chaque année de 3 semaines chez lui, dans sa famille. Il m'a accueilli comme un frère. D'ailleurs, il m'appelle son frère. Vous voyez, quand même, un musulman qui appelle un catholique son frère.
Pour les gens qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, vous êtes, vous, un catholique pratiquant. Vous faites partie, d'ailleurs, de la chorale paroissiale de Lourdes.
Ah oui, ça fait l'année prochaine 50 ans de chorale. Oui.
Donc, vous êtes, vous êtes quelqu'un de catholique. Et en plus, pas de façon anecdotique pour Noël, Pâques et les enterrements ou les mariages. Mais vous y allez, vous êtes à la messe tous les dimanches.
Oui. Et puis, voilà, toutes les cérémonies importantes que nous célébrons avec la chorale. Voilà, même je suis à la diocésaine, donc à Tarbes aussi, pour les grands événements. Voilà. Et donc, cette amitié est née comme ça, et donc nous continuons d'ailleurs. Il m'appelle en moyenne 2 fois par jour, donc vous voyez, on n'est pas près de...
D'accord.
D'ailleurs, en 2023, vous avez fait une interview en direct,
avec
au téléphone, depuis ici, lorsque je suis allé là-bas. Donc.
Il va falloir que je vienne faire un séjour avec vous 2-3 semaines là-bas.
Là, il va vous accueillir vraiment avec grand plaisir, parce que vraiment, il était vraiment très fier de cette interview.
Ce livre, c'est vous raconter un peu cette histoire improbable, à la fois de deux cultures qui sont différentes, deux religions qui sont différentes, deux continents qui sont différents, et pourtant une amitié est née. Vous l'avez dit, il m'appelle mon frère. Je pense que vous le considérez aussi un peu comme un membre de la famille.
Vraiment, il se confie vraiment tout ce qu'il fait, je pense qu'il me le dit. Je crois, je suis la seule personne, même ses frères et sœurs n'ont pas des confidences qui me fait à moi directement.
Ouais. Donc vous êtes devenu quelqu'un d'important et ce qui aurait pu vous différencier, vous éloigner parce que vous n'avez pas la même culture, parce que vous n'avez pas la même religion, et ben tout ça. Vous avez fait.
Ce qu'il y a, c'est qu'il y a. Alors, dans le livre, je mets, si vous voulez, il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux religions. Il y a aussi des grosses différences. Donc, voilà, un peu pour que les gens puissent juger en connaissance de cause, voilà, je mets un peu tout ce qui. Parce que Adam et Ève, Moïse, tout ça, bon, c'est de leur culture religieuse.
Oui,
Marie, vénère Marie. Et Jésus, pour eux, pour nous, bon, c'est le Christ à Jésus, mais pour eux, c'est un prophète. Donc ils vénèrent
le prophète,
ils croient et qu'ils vénèrent Jésus aussi. Après, il y a des grosses différences. La Trinité, non, ça passe pas chez eux, la Trinité.
Ouais.
Le Père, le Fils, Saint-Esprit, non, ça, voilà. Et puis d'autres choses aussi, bien sûr. Mais voilà.
Mais vous avez trouvé une écoute, aucun jugement. C'est vrai que des fois, on fait vite un raccourci. Tout ce qui est musulman, c'est catastrophique parce que l'actualité et on a une mauvaise image souvent. Ouais. Mais alors que non, là vous avez trouvé des gens qui vous ont accueilli chez eux comme.
Oui, et lui il pratique l'islam, je dirais entre guillemets soft.
Modéré.
Oui, c'est-à-dire voilà, c'est comme chez nous, c'est l'entraide, c'est la charité, pas de violence, pas de. Non, c'est. Donc il me dit le vrai islam c'est pas ce que les médias rapportent, non c'est pas ça le vrai
Vous avez déjà fait des séances de dédicace de ce livre?
Non, celui-là non. L'autre, parce que j'en ai écrit d'autres, c'est le cinquième, celui-là. Il y a un autre, je vais en voir, j'ai fait rééditer quelques exemplaires aussi. Celui d'avant qui était mon père, ma mère, ces inconnus qui m'ont abandonné, ça c'est ma biographie. Voilà, comme j'ai une enfance un peu spéciale au Pays Basque, un peu les traditions, je raconte tout ça. Donc je vais avoir aussi quelques exemplaires que j'ai fait rééditer, bon à l'occasion s'il y en a qui...
Donc il y aura les deux livres. Hein.
Voilà.
Priorité, c'est bien sûr ce livre.
Ce dernier,
après les Romains, un Basque ou un catholique chez les musulmans, dont vous étiez venu nous présenter déjà ce livre sur Radio Présence. Vous avez fait aussi une émission spéciale dans le jour où on livre un auteur avec Philippe Nolny et Diego Rabal.
Oui, je suis un habitué de Radio Présence. Parce que d'ailleurs, ma deuxième adresse après chez moi, c'est Radio Présence.
C'est boulevard Rémy-Cepet. Et donc, vraiment, on invite les gens parce qu'à travers une séance de dédicace, eh bien, on peut discuter avec l'auteur du livre. Et puis, vous avez des anecdotes, bien sûr, que vous racontez. On pourrait passer des heures à nous raconter vos voyages là-bas.
Oui, oui, voilà, parce que je décris dans ce livre, si vous voulez, tout ce que j'ai visité et puis quelques petites anecdotes, voilà.
Vous arrivez à l'aéroport, ça.
Oui. Donc, voilà, il y a quelques... Bon, de toute façon, le livre, je n'ai mis que tout ce qui était positif, à part les petites anecdotes comme ça qui font sourire.
Mais qui sont, oui, marrantes.
Voilà. Après, tout ce qui peut être négatif, bon, dans tous les pays, chez nous aussi, voilà, il y a du négatif. Et donc, j'ai préféré rester positif, dans l'optimisme, et voilà. Donc, c'est beaucoup mieux comme ça, et ça passe beaucoup mieux.
Alors, il y a pas que du texte, il y a aussi des photos.
Oui, quelques photos. Bon, je n'ai pas pu en mettre beaucoup en couleur parce que je fais de l'auto-édition, donc les photos en couleur, la page est très chère. Donc, j'ai modifié les photos en couleur en noir et blanc. Mais il y a quelques couleurs, une dizaine, je crois, de pages avec des photos couleurs et les autres, bon, en noir et blanc. Mais bon, ça rend quand même une idée de ce que c'est, de ce que j'ai visité.
Voilà, vous avez visité, vous êtes rentré dans leur intimité, vous êtes arrivé chez eux, ils vous ont accueilli comme un membre de la famille, comme un grand ami. Cette aventure, elle a démarré par un échange qui a dû peut-être vous surprendre dès le début, quoi, que ce monsieur vous demande un ami avec, bien sûr, un nom et un prénom en consonance musulmane.
Oui, mais d'abord, son pseudo sur Facebook était Alyosha. Quand il m'a dit, oui, vous avez un nom vraiment basque, alors j'ai dit oui, plus basque que ça, Rigoye Paria, puisque j'ai un double nom. Et je lui ai dit, et vous, Alyosha, c'est bizarre, on dirait un prénom ou un nom d'une consonance de l'Est, est-ce que vous avez descendance russe ou... Alors, quand il m'a répondu, j'ai éclaté de rire, il m'a dit, j'habite à El Milia, donc la ville où il habite, je suis algérien et j'habite donc à El Milia. Et alors, quand j'ai lu ça, j'ai éclaté de rire. D'ailleurs, ma femme qui passait par là m'a dit, qu'est-ce que tu ris tout seul maintenant? Non, ça y est, j'ai mon premier arabe comme ami sur Facebook. Alors quand j'ai dit ça, il a rigolé. Et là, quand j'ai annoncé, comme j'ai l'habitude de voyager un peu, quand les amis de la chorale ou ailleurs m'ont demandé, j'ai dit, cette année, tu vas où? En Argentine, au Pays Basque ou en Corse? Je pars en Algérie. Quoi? En Algérie? Mais tu es fou! Mais qu'est-ce qui te prend? Ah, ils m'ont tous pris des... Alors je lui ai dit, il s'appelle Nasser, donc mon ami. Je lui ai dit, tu sais, Nasser, mes amis, s'ils veulent pas trop que je vienne chez toi, ils ont peur. Hein. Il m'a dit, rassure-les, tu leur dis que dès que tu sors le premier pied de l'avion, t'as la garde prétorienne autour de toi et tu ne risques rien.
Vous aviez une appréhension quand vous êtes parti là-bas ou non?
Bon, pas trop, non. Enfin, l'appréhension que j'ai, c'était surtout dans les contrôles.
D'accord.
Surtout les contrôles, voilà, c'est parce que les contrôles, là, entre la police, la douane, et je ne sais pas combien de contrôles, c'est vrai que quand je suis arrivé avec mes bagages et tout, à la sortie, puisque la première fois je suis passé par Alger, là j'avais l'appréhension, voilà. Après, une fois que tout ça a été fait, que j'étais dans la famille, aucune appréhension, parce que je savais que j'étais avec quelqu'un de là-bas, qui était en plus dans la région, il est connu parce que pendant 20 ans il a été footballeur professionnel, donc voilà, il est la famille est honorablement connue, même son grand-oncle a été imam et tout, donc voilà, de ce côté-là, pas tous les jours, mais presque, ses amis, ses frères demandaient, Philippe, comment il va, quand est-ce qu'il revient nous voir, et voilà, non, c'est vraiment, j'ai été accueilli d'une manière extraordinaire. Alors là, vraiment, la gentillesse là-bas, c'est... Ah oui, ça n'a vraiment pas de limite. Hein. Vraiment,
vous avez visité des monuments, vous avez visité...
Oui, à Alger, on a visité la Casbah, j'étais deux ou trois fois à Alger, Constantine quatre ou cinq fois. On est allé sur Oran, en cinq jours, on a pris trois fois l'avion. Ça a été deux séjours extraordinaires. Et j'ai visité des villes romaines, mais alors, comme Jemila ou Tidi, ça c'est vraiment presque la Jemila, c'est presque aussi grand que Lourdes, presque des ruines romaines vraiment extraordinaires.
C'est un beau pays.
Oui. Bon, encore sauvage, puisqu'il n'y a pas de bétonnage, il n'y a pas de tourisme. Vous avez 50 kilomètres, comme la corniche gigilienne, comment il l'appelle, oui. Il y a 50 kilomètres de bordure de corniche. Et vraiment, qui est extraordinaire. Vous allez à une plage sur 10 kilomètres qu'il y a 3 personnes, hein, sur 10 kilomètres.
Ah oui.
C'est
surréaliste.
Hein. Ah oui, complètement. Hein, avec les plages bondées que nous avons ici, où on peut même pas poser la serviette, là-bas. Puis il y a des régions où il y a des forêts de chênes et tout, mais c'est vert, mais c'est extraordinaire. J'ai été ahuri par ces forêts immenses, là, des collines de chênes. Enfin, il y a plusieurs essences, mais surtout beaucoup de... Non, c'est un pays qui vaut la peine d'être visité, mais c'est vrai que le tourisme, pour l'instant, n'est pas développé, quoi.
Si vous voulez en savoir plus sur ce livre, ben nous, on vous invite samedi 13 au dimanche 14 juin, de 9h à midi et de 15h à 17h au Centre Saint-Pierre, 14 rue Barthéirès à Lourdes, pour venir échanger avec vous, Philippe Irigoyen, à travers ce livre, mais aussi l'autre, hein, « Mon père, ma mère, ces inconnus qui m'ont abandonné », une histoire pas simple, hein, aussi, de votre enfance.
Qui a déjà bien marché, j'ai vendu, je m'y attendais pas du tout, c'est au-delà de mes espérances, et vraiment, j'ai vécu une très très belle aventure, puisque avec celui-là, j'ai déjà organisé des séances de dédicace au Pays Basque, et à Lourdes aussi, mais c'est au Pays Basque, tous les médias aussi ont rapporté, ces séances de dédicace, j'ai eu des interviews. Comme je parle couramment encore le basque, que je n'ai pas oublié,
d'accord,
bien que je sois là depuis 50 et quelques années, donc j'ai pu faire des émissions en direct en basque et tout, donc voilà, ça a eu des retombées vraiment extra, donc j'ai vécu une aventure vraiment superbe avec ce livre aussi.
Et puis une aventure aussi d'avoir écrit, parce que vous n'auriez jamais pensé, il y a 20 ou 30 ans, que vous auriez écrit des livres.
Même à ce jour-là, j'en ai commis, entre guillemets, 5, mais je ne me considère pas comme écrivain. Je suis d'ailleurs, chaque fois que je termine un bouquin, je suis étonné le premier, parce que je lui dis, mais c'est moi qui ai écrit ça. Quoique le premier bouquin que j'ai écrit, c'était Hippolyte Rigoyen, un président basque, puisque je suis allé 2 fois en Argentine. Et j'ai eu l'épreuve de l'imprimerie, quand j'ai vu Philippe Irigoyen sur le livre, j'ai dit non, je croyais pas.
C'est un choc.
Ah oui, non, mais je n'y croyais pas. Puis j'ai dit, bon, effectivement, oui, c'est peut-être toi qui l'as écrit, en fait, oui.
voilà, si vous êtes passionné à la fois par ce parcours singulier des parents qui vous ont abandonné petit, et c'est de la famille à vous qui vous ont récupéré, qui vous ont élevé, et puis si on veut aussi découvrir votre dernier livre, hein, après les Romains basques ou un catholique chez les musulmans, voilà, les Romains, parce que vous avez parlé de ces...
Oui, voilà, avant les Basques, c'est les Romains qui sont passés. Donc,
ils sont passés là-bas. Mais vous n'étiez pas un conquérant, mais plutôt
du tout.
Invité. Samedi 13 au dimanche 14 juin, de 9h à midi, de 15h à 17h, au Centre Saint-Pierre, 14 rue de Barthéirès à Lourdes. Ce sera avec un grand plaisir que vous accueillerez les gens, vous parlerez de votre livre, de vos deux livres, et puis bien sûr, si vous le souhaitez, ils seront bien sûr possibles d'en acheter.
Oui, ceux qui ne peuvent pas se déplacer ces 2 jours, il est toujours en vente à la librairie du Square,
à Lourdes,
qui est pas loin de la mairie, là, presque en face de la mairie.
Voilà, à Lourdes, bien sûr.
À Lourdes,
voilà.
Il est en vente là aussi.
On peut les saluer parce que ils sont très gentils, très serviables.
Oui, vraiment.
Et c'est une très belle librairie.
Superbe accueil. Il en a, donc vous pouvez l'acheter là aussi.
À combien il est ?
Il est à 25 euros.
25 euros, voilà, le livre. Oui. Merci beaucoup, Philippe. Bonne séance de dédicace, donc les 13 et 14 juin, donc 9h midi, 15h, 17h, direction le Centre Saint-Pierre, rue Barthéirès à Lourdes.
Merci, Philippe.
Présence à Mirande, 104.2.
Présence de passage à Lourdes. proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Nous avons la chance et la joie de recevoir aujourd'hui dans cette émission Dr Djihada Monami. Bonjour docteur.
Bonjour à vous. Bonjour à tous.
C'est un honneur de pouvoir vous interroger dans le cadre de cette émission pour la première fois, alors que le 11 février de cette année, c'est-à-dire 2026, vous avez reçu de la part de Monseigneur Mika, évêque de Tarbes et Lourdes, cette nomination qui, pour un médecin, j'ose dire, est exceptionnelle parce que c'est unique au monde. Vous êtes devenu le médecin permanent du bureau médical du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Oui, c'est vrai.
Votre prédécesseur avait l'habitude de dire que vous n'êtes amené qu'à rencontrer, alors il le disait avec humour, que des guéris. C'est-à-dire, vous êtes, on va s'en rendre compte, au cœur du processus de reconnaissance des guérisons inexpliquées et plus tard des miracles. Docteur, vous êtes une spécialiste, nous allons le découvrir au cours de votre parcours. Pourquoi le médecin spécialiste que vous êtes a accepté une telle mission si unique, si singulière? Est-ce que c'est le fruit d'un parcours personnel?
Bon, avant tout, je suis honorée d'être ici et d'avoir la chance de travailler dans un lieu unique au monde, vraiment. Il y a sûrement, sur le plan professionnel, et il s'agit d'une mission vraiment unique au monde. Et représente un petit peu la continuité de mon parcours médical et scientifique aussi. Mais aussi une manière un petit peu différente, particulière, de mettre les connaissances médicales au service de les personnes. Et c'est un travail extrêmement, je pense, stimulant. Et il faut, comme tous les médecins, d'avoir une rigueur scientifique, mais aussi, je pense, une profonde attention à la personne. Et sur le plan professionnel, sur le plan personnel, j'ai connu Lourdes quand j'étais un enfant. Parce que mon père, il a été aussi un médecin bénévole avec une association italienne qui s'appelle Unitalsi. Alors, je suis agrandie avec toute l'histoire qu'il m'a racontée sur les services aux malades, sur la fraternité, sur la prière communautaire. Et ça, et quand je suis agrandie, moi aussi, je suis devenue un médecin bénévole avec la même association, l'Unitalsi. Et comme ça, Lourdes a été vraiment quelque chose de progressivement important dans ma vie professionnelle et humaine au même temps.
Je me permets de dire votre âge, docteur. Vous avez 49 ans et à 49 ans, votre parcours est quand même complet. On va voir que vous avez eu des parcours à travers des pays différents et aussi à travers, sans doute, un regard sur la médecine qui peut être complémentaire et différent. Vous êtes d'origine italienne? Vous êtes italienne?
Oui, je suis italienne.
Italienne. Quel est votre parcours de médecin? Vous n'êtes pas médecin à l'origine d'ailleurs, vous êtes pharmacienne.
Oui, c'est vrai. Mon premier diplôme, il a été en pharmacie. Après, je suis allée aux États-Unis pour faire de la recherche préclinique, c'est-à-dire j'étudie particulièrement les mécanismes d'invasion et de migration des cellules tumorales. Et ça a été pour un petit peu d'années. Et après, je suis retournée en Italie et j'ai pris mon diplôme en médecine et chirurgie et après la spécialité en médecine interne. Alors, je suis un médecin interniste, que c'est vraiment différent de le médecin interne, que c'est un médecin que c'est toujours en train d'étudier. Le médecin interniste, c'est un spécialiste qui s'occupe des maladies complexes. Et les maladies touchent simultanément plusieurs organes et systèmes. Et en disant, le médecin interne et le médecin interniste développent en vision un petit peu global de la personne, de patient, et en vision à 360 degrés de la maladie et de la personne aussi.
Donc ça veut dire que vous avez un beau parcours assez complet. Est-ce qu'au cours de ce parcours très scientifique, donc éminemment médical, vous avez eu des occasions et des moments de votre histoire personnelle où la question de la foi a surgi, ou vous a interpellé? Vous nous avez dit déjà votre papa dès l'origine quelque part vous transmet quelque chose, sa foi et sans doute son goût pour la science. Mais tout de même, vous, dans votre parcours, est-ce que vous avez été interpellé dans votre expérience?
Oui, je pense que les contacts quotidiens avec la souffrance que tous les médecins ont inévitablement et toutes les questions que nous devons confronter tous les jours sous le sens de la douleur et de la maladie et même de la fragilité humaine, ça sont interrogations que tous les médecins sont confrontés à devoir et sans toujours pouvoir apporter vraiment une réponse complète. Et personnellement, je pense que la foi aide beaucoup à accueillir la souffrance et dans la perspective d'un projet de plus grand du salut et d'une union aux souffrances même de Christ. Et ça, je pense que personnellement, il m'a aidé beaucoup à affronter beaucoup de situations difficiles, même dans les temps de Covid, par exemple.
Mais votre expérience de médecin aurait pu vous faire douter aussi, parce que face à la souffrance, il y a une part de scandale, d'incompréhension. Donc vous avez toujours été habité par cette question de la foi malgré la souffrance.
Oui, je pense que c'est quelque chose, un cadeau qu'elle a été en moi dès qu'elle était un enfant. Bon, ma famille, elle est croyante et je suis grandie avec ces valeurs.
Alors, si je puis me permettre, je me suis un peu renseigné sur vous et on dit de vous, comme médecin, que vous êtes très humaine, très bienveillante, très respectueuse de la personne humaine. Autrement dit, on pourrait comprendre que votre parcours vous rend très spécialiste, presque fasciné par la question de la maladie et en vérité, vous regardez beaucoup la personne. Qu'est-ce que Lourdes, l'expérience de Lourdes, a apporté dans votre parcours ?
Beaucoup de choses. Il a certainement contribué à développer l'empathie avec les personnes et avec les patients, parce que nous devons rappeler tous les jours qu'en front à nous, il y a une personne avec une maladie et pas seulement une maladie. Alors, ça aide beaucoup pour créer la confiance et les rapports que chaque médecin a avec les patients pour avoir un parcours de cours plus complet et plus efficace aussi. Et à Lourdes, vraiment, on rencontre des personnes profondément marquées par la maladie, mais capables au même temps de témoigner en force intérieure extraordinaire. Et ça, je pense que va aider beaucoup les médecins pour différents motifs, pour la connaissance, mais même pour rappeler tous les jours qu'il faut savoir, il faut être toujours un petit peu humble et savoir que nous n'avons pas toujours les réponses, que la médecine, il n'y a pas toujours les réponses à toutes les choses. Et ça, je pense que Lourdes peut enseigner beaucoup sur ce sujet.
Vous nous dites, Lourdes est un chemin d'humilité pour être humble et dire, moi, femme de science, je suis face à vous et je ne sais pas... Oui. Quoi vous dire et quoi faire, être là.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Il faut accepter avec humilité et d'être d'à côté aux patientes, même dans ces moments.
Lourdes est aussi particulier parce qu'on met la fragilité à la première place. Alors que dans beaucoup de sociétés, on cache la souffrance et la fragilité. Ça aussi, c'est important pour... le médecin que vous êtes, qu'on accepte la réalité telle
oui,
qu'elle est.
Oui, ça c'est fondamental, je pense, accepter la réalité, la souffrance qu'on part de la vie. Mais la foi, vraiment, je pense que nous donne un moyen d'interpréter la souffrance dans un projet plus grand, dans le projet de salut et dans le projet de désespérance que le Christ, que le mourir sous la croix pour nous, elle nous a donné.
Docteur Diana, mon ami, nous parlerons dans la deuxième partie de cette émission de votre mission actuelle comme médecin permanent, responsable du bureau médical du sanctuaire de Lourdes. Mais ce qui est frappant lorsqu'on regarde ce qui est survenu le 11 février 2026 par votre nomination, c'est que vous êtes la première femme à exercer cette fonction. question, elle est un peu délicate pour vous, évidemment. Je ne sais pas comment vous pouvez y répondre, mais tout de même, comment vous interprétez, comment vous vivez cela, tout simplement, d'ailleurs.
Oh bon, avant tout, je remercie l'évêque pour ses choix. Et je pense que vraiment, c'est quelque chose symbolique. C'est un petit peu le symbole du changement de temps. Mais vraiment, l'histoire de Lourdes, le début, c'est une histoire de femme. Et ça, peut-être, veut dire quelque chose. Mais après ça, vraiment, je ne pense pas beaucoup à le fait d'être une femme ou pas. Et je pense seulement à la responsabilité et de ces incroyables missions. Et je pense que je dois faire, je cherche de faire tous les mieux, accomplir mon travail du mieux possible. Et comme médecine et comme personne, en mettant en profit toutes les qualités que chacun de nous a. Et ça c'est mon priorité, en disant. Mais j'éprouve une grande, énorme joie d'être ici, une profonde gratitude d'avoir l'opportunité de travailler dans un lieu vraiment unique au monde où le processus scientifique, les rigueurs scientifiques rencontrent aussi l'espérance, la souffrance, la foi et la solidarité.
Docteur, nous allons nous arrêter quelques minutes dans cette émission. Nous continuons ce dialogue avec vous. Je rappelle que vous êtes depuis le 11 février 2026 le médecin permanent du bureau médical du sanctuaire de Lourdes. Dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de tout ce processus qui existe à Lourdes, de votre mission telle que vous l'envisagez aujourd'hui, du rapport entre la médecine et la foi. Également, vous nous direz quelle est votre relation avec tous les soignants que vous pouvez contacter, voir aujourd'hui. On continue ce dialogue passionnant avec vous. À tout de suite.
Présence de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Aujourd'hui, notre invité est le docteur Gianna Monami. Docteur, vous êtes médecin permanent du bureau médical du sanctuaire de Lourdes. Depuis le 11 février, qui est une date symbolique à Lourdes, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. 11 février 2026, nomination. Le médecin spécialiste que vous êtes quitte cette mission de spécialiste au service des maladies complexes, vous nous l'avez dit, pour entrer dans un schéma tout autre pour vous, une mission très particulière, qui est le médecin du bureau permanent du médical du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Cette enquête, cette démarche d'enquête sur les miracles de Lourdes, elle existe depuis longtemps à Lourdes, depuis 1883, je crois. Donc c'est une démarche très spécifique, hein, qui parle des guérisons inexpliquées avant de parler de miracles. Alors, il y a 72 miracles reconnus aujourd'hui, officiellement. Oui. Est-ce que vous pourriez nous décrire le travail effectué par la médecine au sein du bureau médical que vous dirigez?
Bon, alors comme vous avez dit, le bureau de constatation médicale est une institution vraiment unique au monde et il était créé sous demande de Père Sampé, qui était les recteurs du temple, afin que personne ne puisse partir de Lourdes en se disant d'être guéri sans avoir une évaluation médicale, en disant. Et ma mission consiste à représenter la première évaluation pour ces personnes. Et enfin, les personnes viennent ici, ils me racontent leur histoire, quelquefois elles présentent un petit peu de documentation médicale, les dossiers médicaux, et je commence ce que c'est les premières analyses critiques du cas. Et dans ce processus de discernement, nous utilisons tout le temps les critères de Lambertini. Lambertini était un cardinal dans le 18e siècle, et il est devenu après Pope Benoît XIV et il a créé ces critères qui sont toujours vraiment valides, scientifiques et rigoureux. Alors, les premières, c'est nous devons avoir un diagnostic précis, certes. Et après ce diagnostic, faut être une maladie sévère et grave, pas nécessairement fatale, mais vraiment quelque chose qui peut changer la qualité de la vie de la personne. Et après, il y a la part de la guérison. La guérison, il faut être improvise, soudaine, complète et durable dans le temps. Parce que maintenant, nous savons qu'il y a beaucoup de maladies qui ont des périodes de rémission et après la maladie retourne. Et ça, pour nous, c'est mandatoire. Et à la fin, il faut vraiment de comprendre qu'il n'y a pas d'explication pour la médecine actuellement à la guérison qu'elle est venue. Alors, c'est une guérison inexpliquée. Et là, quand je pense qu'effectivement il y a quelque chose de sérieux du point de vue médical sur les dossiers, sur les cas cliniques, j'appelle qu'est-ce que nous appelons les bureaux. C'est une réunion de tous les personnels soignants, c'est-à-dire médecins, pharmacistes, infirmières présentes en Lourdes en ce moment-là, et nous discutons collégialement, parce que ça c'est très important, les cas cliniques. Si nous effectivement pensons qu'il y a quelque chose de sérieux, qu'il faut être approfondi, je porte les dossiers à la Commission médicale internationale de Lourdes. C'est une commission composée de 25-30 spécialistes, sont deux professeurs, deux chercheurs exceptionnels dans son propre spécialité, qu'on discute de tous les dossiers, les cas cliniques, pour plusieurs années pour être sûr de dire si effectivement la guérison est expliquée ou pas par la médecine actuelle. Quand nous avons déterminé, la commission a déterminé ça commence en disant la deuxième partie. Et dans la commission, il est toujours présent notre évêque, Monseigneur Mika, mais il est évêque de Tarbes et Lourdes, et qu'il est là, il préside la commission, les CMIL, il est là pour observer, et entendre et juger vraiment la démarche, au sérieux de la démarche scientifique. Quand nous avons terminé ça et nous avons dit, bon, peut-être vraiment, il n'y a pas d'explication scientifique et pour la médecine actuelle de ces guérisons. Alors, les dossiers, il est donné à notre évêque et commence la partie, disons, de l'Église. Et il y a le reconnaissement ou pas des miracles par notre évêque et surtout par l'évêque de la cité, de la diocèse, de la personne qui était guérie.
Donc, à ce jour, 72 guérisons inexpliquées, comme vous le disiez, soudaines, complètes, durables, qu'on ne peut pas imputer à des médicaments.
Ou quelque chose
72 ont été transférées vers une autorité de l'Église pour être reconnues comme miracles.
Oui, c'est ça.
Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de guérisons qui n'iront jamais jusqu'à ce processus de miracle.
Oui, c'est ça. Il y a plusieurs milieux de dossiers qui resteront secrets. Parce qu'il y a des explications, on n'y sont pas clairs, il n'y a pas un diagnostic précis. Et s'il n'y a pas tous les critères, nous ne pouvons pas continuer dans l'étude.
Vous pouvez dire, docteur, que vous trouvez ça assez rigoureux, que c'est sérieux, cette...
Oui, absolument. C'est mon métier. Et moi, je suis primairement en médecine. Il faut d'appliquer toujours, comme nous le faisons dans l'hôpital, avec tous les malades, avec toutes les personnes qui viennent de nous pour une maladie. Il faut d'être vraiment rigoureuse et appliquer un processus scientifique tout le temps. Ça, c'est mandatoire.
Votre prédécesseur s'appelait le docteur... Oui. Alexandro de Franchisis, il a beaucoup expliqué, œuvré pour rendre compréhensible justement toute cette démarche lourdaise, pour expliquer le travail du bureau médical, du comité médical international de Lourdes. J'imagine que vous le connaissez bien.
Oui, je le connais.
Peut-être c'est le moment de rendre hommage à ce parcours qu'il a accompli pendant plusieurs années à Lourdes.
Mais bien sûr, avec plaisir. Le docteur de Franchisis a, je pense, profondément marqué l'histoire récente du bureau médical. Au cours de son long mandat, parce qu'il a été ici pour 17 ans, il a contribué à faire connaître les rigueurs scientifiques que nous appliquons au bureau médical et avec lesquels sont examinées les guérisons de Lourdes et accompagné aussi la reconnaissance des 5 guérisons qui sont après été déclarées miraculeuses. Et il fait vraiment du bureau de constatation médicale, non seulement un lien d'expertise scientifique et d'application de les rigueurs de le processus scientifique, mais aussi un lieu d'accueil pour les pèlerins et pour les professionnels de santé et les personnels soignants. Moi-même, j'ai connu le bureau de constatation médicale grâce à lui. Et je suis maintenant vraiment profondément reconnaissante pour son aide en sa transition, pour la générosité qu'il a comme mentor et aussi pour les nombreux conseils et enseignements qu'il m'a donnés et pour sa amitié.
C'est un personnage haut en couleur, exceptionnel dans la relation, oui. Et donc médiatiquement, il a eu un gros travail. Oui. Comment vous voyez, docteur, votre mission au sein d'une communauté humaine que peut-être les gens ne connaissent pas très bien, mais qui est constituée de salariés, de bénévoles, de beaucoup de gens qui sont aussi engagés au plan sacerdotal, au plan d'un engagement aussi de religieux, de religieuses. Bref, une communauté de travail et d'accueil qui est très vaste. Vous êtes, vous aussi, maintenant plongé dans cette communauté de travail et d'accueil.
Oui. Oh bon, je pense que, comme toutes les personnes engagées au sanctuaire, je crois que nous partageons une même mission. C'est celle d'accueillir et servir les pèlerins, les malades, et en particulier les plus fragiles. Et je me sens un membre vraiment d'une grande famille et j'ai la grâce de vivre ce qui constitue, à mes yeux, une véritable, le vrai miracle de l'eau, que c'est une chaîne de solidarité, une chaîne de fraternité et de service. Et c'est une expérience unique, profondément enrichante, tant sur les plans humains, mais aussi sur les plans professionnels.
Il y a aussi une part de votre travail qui sera consacrée à la relation avec les soignants. Vous en avez parlé à plusieurs reprises au cours de ce dialogue. Oui. Le monde des soignants peut être très sceptique par rapport à la question de la foi.
Oui.
Vous les recevez. Ils accompagnent des malades à Lourdes. Ils sont pharmaciens, pharmaciennes, médecins,
infirmiers,
kinésithérapeutes,
oui.
Tous les comment vous voyez votre mission auprès d'eux?
J'ai la vie avec les mêmes sens de responsabilité et la même exigence scientifique que tous les médecins mettent dans son travail quotidien, je pense. Et la dimension de la collégialité, de la condivision, c'est fondamental. Et les médecins modernes est de plus en plus un travail d'équipe et l'expérience hospitalière, ça fait vraiment, enseigne vraiment combien il est important de partager les compétences, de confronter les points de vue et de prendre ensemble les décisions pour le bien de le patient, pour le bien de le malade. Et je pense que nous travaillons tous ensemble, tous dans la même direction.
Donc au fond, vous êtes partisane de la collégialité et du dialogue. Justement, parlons de dialogue. Parce qu'il y a un dialogue au cœur duquel vous êtes plongé, malgré vous. C'est un dialogue entre la science et la foi. Vous avez fait allusion à cette question parce que vous, ça vous habite la foi depuis toujours et sans aucun doute particulier. Mais tout de même, comment vous vivez d'être plongé dans ce dialogue entre science et foi ?
Alors, comme vous avez bien dit, les bureaux de constatation médicale occupent effectivement un petit peu une position particulière où on s'en rend compte la dimension scientifique et la dimension aussi spirituelle de l'expérience humaine. Je ne pense pas qu'il y a une opposition, que la foi et la science sont opposées. Notre mission est avant tout scientifique. Nous examinons les dossiers médicaux avec rigueur à la lumière de connaissances de la médecine contemporaine. Mais je crois qu'il est nécessaire tout le temps d'avoir l'humilité de reconnaître que la médecine n'est pas toujours capable d'expliquer tout qu'elle sait et qu'elle ne sait pas tout. Hein. Et la foi, je pense, peut offrir une perspective un petit peu plus large sur l'expérience de la maladie, de la souffrance humaine et ça permet de porter un regard de constructive dans lesquelles et la maladie et la souffrance peuvent également trouver un sens de la souffrance et de la maladie. Et les bureaux de constatation médicale, je pense que c'est vraiment un lieu incroyable, unique au monde. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Et nous devons toujours respecter, avoir le respect absolu de la méthode scientifique et dans le même temps, l'écoute attentive de l'expérience humaine et spirituelle des personnes qui viennent ici du monde entier.
Docteur Giada Monami, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci à vous.
Merci d'avoir parlé en langue française.
Merci à vous.
Je pense que vous maîtrisez plusieurs langues. La française, on a compris. La vôtre, italienne.
L'italienne, mais oui.
L'anglais, sans doute, puisque vous avez passé une partie de votre carrière aux États-Unis.
Merci, mais j'espère d'être clair avec mon français, que c'est allé du bout. Hein.
Merci beaucoup, en tout cas, pour cet entretien, pour cette pédagogie, cette clarté. On vous souhaite une belle mission à Lourdes.
Merci beaucoup.
Et à bientôt, évidemment, hein, pour un nouveau dialogue approfondi sur tel ou tel point. Au revoir.
Merci à vous, Beto. Bon jeûner.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Sur le COS 106.5
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Un discours très attendu et très applaudi ce matin. Léon XIV a entamé sa troisième journée à Madrid par une visite.